Voilà, vous êtes bel et bien branché sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Vous êtes en train de suivre votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. On va parler tout à l'heure avec notre invité, le professeur Jean-Marie Kaimé, interniste et doyen de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Comment prévenir les hépatites? Les dix gens en ligne, on me fait signe qu'il est déjà en ligne. Professeur Jean-Marie Kaimé, bonjour.
Bonjour.
Voilà, finalement ça marche avec les téléphones, ça nous fait énormément plaisir de vous retrouver ce matin pour aborder ces sujets sur les hépatites qui sont des maladies virales dangereuses et transmissibles à une personne et une autre. Alors professeur, dites-nous un peu, pourquoi parle-t-on des hépatites plutôt que de parler seulement de l'hépatite?
C'est aussi un plaisir de partager avec vous et nos fidèles auditeurs ce que nous avons sur cette question poignante. Oui, vous avez parfaitement raison de parler des hépatites. Ceci est lié exactement au type d'étiologie. Nous voulons parler surtout des hépatites virales, oui, qui sont dues à des virus. On parle d'hépatite au pluriel parce que des lettres les désignent. Il y a notamment le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, de l'hépatite B, E, H, etc. Mais plus fréquemment, nous avons surtout les virus de l'hépatite B et C, mais aussi le virus de l'hépatite A. C'est parce que le type de virus qui détermine l'hépatite A, un tropisme, ça voudrait dire touche des organes ou un mode de contamination différent. C'est cela qui explique les hépatites au pluriel au lieu de parler tout simplement de l'hépatite. Nous sommes dans les hépatites infectieuses, les hépatites liées au virus.
Voilà, vous avez dit les plus courants les plus courantes ces hépatites virales. Vous avez parlé de l'hépatite B et l'hépatite C. Alors comment fait-on pour distinguer s'il faut parler d'un diagnostic différentiel entre les deux hépatites B et C?
Oui, la différenciation dépend surtout de la caractérisation du virus. Le virus peut être, les maladies virales, nous les diagnostiquons soit par une approche sérologique. Ça voudrait dire rechercher les anticorps contre tel ou tel type d'hépatite ou alors simplement la mise en évidence de l'antigène de l'hépatite. Donc l'antigène de l'hépatite B, par exemple, est différent de l'antigène de l'hépatite virale C. Donc on peut déjà, par les moyens sérologiques, mettre en évidence l'antigène même qui détermine l'hépatite B, l'antigène australien, ou l'hépatite C, etc. Mais il y a aussi aujourd'hui l'approche moléculaire. La biologie moléculaire permet tout simplement de mettre les acides nucléiques qui déterminent tel type de virus pour tel type d'hépatite. C'est ainsi que le virus de l'hépatite B est différent sur le plan de la biologie moléculaire, différentes hépatites, du virus de l'hépatite C, etc. Voilà donc un petit peu comment on peut les différencier en les caractérisant sur le plan des antigènes ou par la biologie moléculaire.
Alors s'il faut parler de signes, hein, qui ce soit de l'hépatite B ou de l'hépatite C, hein, il y a les signes sont communs.
Oui, en général, au fait, l'hépatite B ou la C, les manifestations cliniques seront généralement superposables. En ce qu'ils ne sont pas différents, notamment des manifestations de la grippe ou, de manière un peu vulgaire et globale, du paludisme. Mais avec à la différence que lorsque le tableau s'installe, le malade a généralement une très très grande fatigue. Le malade est, c'est ce que nous appelons l'asthénie. Le malade fera un épisode de fièvre, vous voyez que la fièvre ainsi que la sténie physique peuvent déjà se retrouver même dans le paludisme, dans la fièvre typhoïde et tant d'autres maladies qui imposent donc en ce moment-là un diagnostic différentiel. Mais l'hépatite, dans l'évolution, s'installe la jaunisse. Nous l'appelons ictère dans le domaine médical. C'est les yeux ainsi que les téguments, les autres muqueuses, les paumes de main, les lèvres, les plantes des pieds qui deviennent jaunes. L'ictère est généralement un signe d'accompagnement de ces hépatites et l'ictère apparaît en général, en médecine ni jamais ni toujours, lorsque la fièvre diminue déjà. Donc voilà, en gros, c'est fièvre, fatigue excessive, importante, mais aussi l'ictère, la jaunisse des yeux ou des téguments. Voilà les principaux signes des hépatites sur le plan clinique.
Alors, lorsque tous ces signes confirment que la personne a une hépatite, soit B ou C, alors comment s'est fait la prise en charge médicale?
Aujourd'hui, Dieu merci, la médecine est très évoluée. Je dois vous dire qu'il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, le malade qui avait son hépatite s'en remettait à des traitements symptomatiques. Donc le repos d'abord, parce qu'il y a grande fatigue, et les médicaments qui diminuent la fièvre, nous les appelons les antipyrétiques. Mais à l'heure actuelle, plusieurs molécules sont à l'essai. Et ces différentes molécules sont généralement pas des viricides. Viricide, c'est le médicament qui tue complètement le virus. Mais là, nous avons surtout des médicaments virostatiques, ça voudrait dire qui tétanise le virus, qui l'empêche de se répliquer, de se reproduire et de contaminer de nouvelles cellules. Il y a de plus en plus de molécules à l'heure actuelle, et surtout dans les pays européens, etc., des molécules qui sont encore excessivement chères et qui ne sont pas ici de dispensation vulgarisée dans nos pays où il n'existe même pas de mutuelle de santé. Donc, il y a cette approche-là. Mais je dois évoquer une part importante dans la prise en charge de ces affections, c'est le vaccin. Le vaccin contre l'hépatite B ou l'hépatite C, dans des catégories particulièrement exposées, est une recommandation de santé publique dans la prise en charge de ces affections.
Et professeur, ces vaccins, ils existent chez nous?
Oui, il y a des maisons où ils existent. Quand j'ai parlé de personnes exposées, notamment étant donné la contamination par le sang, toute personne qui manipule le sang, comme les infirmiers, les vétérinaires, etc., les médecins, voilà des populations qui doivent bénéficier d'une prévention par le vaccin contre l'hépatite B. Il existe dans certaines entreprises, mais nous avons dit que nous n'avons pas de mutuelle de santé. Posez la question à mon ami le professeur Machinda, qui est vice-doyen à la faculté de médecine et homme de santé publique. Il vous dira certainement que nous n'avons pas de vaccins de manière, distribués facilement. Mais la plupart d'entreprises, par exemple, avec leur médecine du travail, etc., ont des vaccins. Certaines formations médicales du privé ont certainement des vaccins. Et ces vaccins sont disponibles dans certaines bonnes pharmacies de la place, où les gens peuvent se les procurer. Je pense en l'occurrence, sans faire de la publicité, à la pharmacie du 30 juin par exemple, ou Santé Mère, etc. Il y en a quelques-unes à Kinshasa où l'on peut se procurer tous les médicaments et de bonne qualité.
Voilà, nous parlons de comment prévenir les hépatites avec le professeur Jean-Marie Kaimbé Terni, citoyen de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Bienvenue, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie aux côtés du Okapi Service. Le sujet, c'est comment prévenir les hépatites. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, le numéro d'appel, c'est les 081-890-63-94.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Ismaël Mopoy nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour Martin Mombala, bonjour à tous nos auditeurs.
On vous écoute Ismaël.
Ok, ma première préoccupation est de savoir comment finir le traitement de l'hépatite. C'est une symptomatique ou causale. La deuxième question est de savoir parmi le maladie négligée de l'Afrique. Oui.
Je n'arrive pas à vous suivre clairement. Si vous voulez vous déplacer un tout peu, et comme ça on saura bien vous suivre et puis l'invité pourra bien répondre à votre préoccupation. Allez-y.
Mais moi, je vous suis à 100%. La première question que je disais, j'ai demandé de savoir, il s'agit d'hépatite. C'est un traitement symptomatique ou le traitement causal?
Oui.
La deuxième question, c'est de savoir, parmi les maladies négligées de l'Afrique, est-ce que l'hépatite fait partie aussi des maladies négligées et par mode de transmission de cette maladie? Comment on peut prévenir la transmission de cette maladie? Mais quelles sont des stratégies concrètes qu'on est en train de mener pour lutter contre cette maladie. Mais tel que l'invité a dit que le traitement soit, bon, il y a ceux qui ont eu du succès, mais c'est un traitement qui coûte très cher ou extrêmement cher. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour lui qu'il y ait aussi les vaccins? Parce que les vaccins en Afrique, il y a quelques semaines où j'ai intervenu sur le même sujet. J'espère qu'à ceux qui ont eu cette maladie, ils ont beaucoup dépensé. Pour être guéri, j'espère qu'on ne peut jamais dépasser moins de $1,000. Je ne sais pas si l'invité peut aussi consommer et donner quelques mécanismes pour prévenir cette maladie. Merci beaucoup.
Merci Ismaël Mopoy depuis Lubumbashi. Clément Ndaye, vous êtes à Kananga. Bonjour Clément. Clément, vous êtes en ligne? Clément Ndaye n'est plus en ligne, on espère qu'on va le retrouver. Antoine, à la fin de cette tranche, de la deuxième partie du magazine Okapi Service, par rapport à ces sujets, sur comment prévenir les hépatites. Professeur Jean-Marie Kaimé, vous avez suivi Ismaël Mopoy qui a cherché à ce que vous reveniez par rapport au traitement. Il s'agit actuellement d'un traitement symptomatique ou causal.
Je pense, en ayant abordé la question, avoir dit qu'il y a une approche symptomatique qui s'adresse aux symptômes de la maladie, notamment l'asthénie et la fièvre. Mais il y a à côté de cela un traitement étiologique, c'est ce qu'il voulait dire par causal, le traitement dirigé contre le virus. C'est en ce moment que j'ai défini virucide ou virostatique. Il y a effectivement des molécules qui permettent une élimination des particules virales. Et ces molécules sont essentiellement onéreuses, nous l'avons dit. Mais lorsqu'il me parle de $1,000, je n'ai aucune idée du coût et je ne suis pas ministre de la Santé, que ce soit au niveau national ou provincial, mais simplement en scientifique, j'essaie d'apporter ce que je peux sans pouvoir être ici directement un décideur. Par contre, que faire? Lorsque nous parlons prévention, c'est vrai, la prévention est peut-être chère dans le sens où le changement de comportement, de mentalité par l'information, notamment ce que nous faisons en ce moment, est toujours quelque chose de capital, mais dont le résultat n'est pas palpable à brève échéance. La prévention est capitale, l'information, c'est un moyen de prévention évidente. Mais en parlant de prévention, le plus important ici, c'est de savoir quels sont les moyens de transmission. Lorsqu'on évoque l'hépatite A, par exemple, c'est une hépatite du péril oro-fécal. C'est surtout une maladie qui se transmet par le tube digestif. L'hygiène déjà digestive, la barrière que vous établissez entre les matières fécales et la bouche, c'est ça le péril oro-fécal, en lavant simplement correctement les mains avant de manger, en se lavant régulièrement les mains lorsqu'on a été au contact avec une personne malade, etc., on évite de faire passer le virus par la bouche. Par contre, la B et C, qui sont aussi des hépatites beaucoup plus graves, dont l'évolution peut être dramatique à long terme. Vous savez que certains cancers du foie peuvent provenir d'une infection, d'une affection, d'une hépatite B ou C antérieure. Et là, ces hépatites se transmettent essentiellement par la voie sanguine. Donc, éviter justement la contamination, c'est pour ça que toute personne qui manipule le sang, infirmier, médecin, etc., il est exigé que cette manipulation se fasse au travers des gants qui sont bien étanches, etc. Vous savez, vous voyez d'ailleurs comment, dans les hôpitaux, on utilise habituellement des désinfectants pour les mains, etc. Mais la transmission sexuelle est également une voie de transmission connue. Et là, hélas, la personne qui est en période de vie rémie active, peut-être, lorsqu'elle est malade, elle n'a déjà pas la force de la transmission par la voie sexuelle. Mais le portage de l'hépatite peut être long. C'est le comportement sexuel responsable, comme celui pour éviter la transmission du VIH. Toutes ces maladies qui se transmettent par la voie sexuelle peuvent être évitées également par un comportement responsable, la protection via les condoms, etc. Donc voilà quelques moyens de prévention de l'hépatite B et de l'hépatite C.
Professeur, il a également cherché à savoir si l'hépatite, les hépatites peuvent être classées dans la catégorie des maladies tropicales négligées.
Non, les hépatites ne sont pas d'abord des maladies tropicales, elles sont des maladies cosmopolites. Il y a de l'hépatite même aux Swaziland ou encore plus loin de nous, au Groenland. Donc, ce ne sont pas des maladies tropicales et ne sont pas négligées. Celles qui le sont, comme la maladie du sommeil, la schistosomiase, etc., vous aurez remarqué qu'elles sont négligées parce qu'elles touchent surtout les contrées les plus pauvres du monde, les contrées dans lesquelles les politiques sanitaires ne dépendent pas tout simplement de ces pays eux-mêmes et où les populations sont les plus exposées et les plus démunies du globe. C'est ça, le concept de maladie tropicale négligée. Les hépatites n'en font certainement pas partie. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles la recherche qui nécessite des financements, etc., arrive à évoluer davantage, même dans la définition des médicaments, là où il y a plus de moyens investis dans le domaine de la recherche, etc. Donc ce n'est pas une maladie tropicale négligée.
Voilà, on va poursuivre avec Kimaro, qui nous appelle de Dungu, et Didier Kunonga, qui est à Kolwezi. Kimaro, bonjour.
Bonjour, monsieur l'invité, à tous les auditeurs de la radio Capi. C'est Arlette Kimaro, depuis Dungu, dans la province du Haut-Touéré.
On vous écoute.
Oui, j'ai deux petites préoccupations. La première est celle de savoir si l'hépatite virale est causée par quoi. Et la seconde est celle de savoir quels sont les symptômes de l'hépatite virale. Merci beaucoup.
Merci à Kimaro depuis Dungu, Didier Kunonga. Vous êtes à Kolwezi. Bonjour Didier.
Bonjour. Et bonjour aussi à l'invité. J'ai quelques petites préoccupations à suggérer auprès de l'invité. Je commencerai par pourquoi est-ce qu'on parle de la prévention au lieu du traitement? C'est incurable ou comment toutes ces hépatites-là, ça fait un? Et des deux, le vaccin, c'est pour prévenir, bien sûr, mais chez quelqu'un qui, par peut-être l'examen sanguin, montre qu'il y a du virus de l'hépatite B, par exemple, pour le cas d'espèce. Et le vaccin servira à quoi? Ça, c'est deux. Et le risque de transmission ou de contamination, c'est à quelle étape? Parce que j'ai suivi il n'y a pas longtemps un médecin qui est passé à la télé locale ici, qui a parlé de on peut être atteint par le virus, mais la manifestation spontanée. Ça traîne, c'est après quelques temps que ça va se manifester. Et qui est capable de transmettre? C'est lui qui a le virus ou qui a déjà manifesté cette maladie, cette hépatite. Merci.
Merci à Didier Kunonga depuis à Kolwezi. Professeur Jean-Marie Kaimé, si vous voulez bien revenir pour cette question de Kimaro, qui a parlé de cause, hein, de l'hépatite virale et puis des symptômes.
Je crois que nous avons répondu à cette préoccupation. Je salue notre ami du Haut-Uélé. Je suis content de découvrir l'effectivité même du nouveau morcellement du pays en plusieurs provinces. Les virus en sont les agents étiologiques. Nous avons énuméré le virus de l'hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, E, F et G, d'ailleurs, pour ne citer que ceux-là. Donc, ce sont des virus qui sont les agents qui causent cette maladie. Les symptômes, nous avons dit, un peu comme la malaria au départ. Fièvre, fatigue excessive, mais elle est vraiment importante, la fatigue, mais également au moment où apparaît la jaunisse. Ça voudrait dire les yeux, ainsi que les paumes de main, des pieds, le corps qui tend à jaunir. Donc la jaunisse, la couleur jaune, voilà les principales manifestations, les principaux symptômes des hépatites.
Alors Didier, lui, est revenu sur la prévention et les traitements. Il a cherché à savoir, pour lui, il est bon de prévenir les hépatites parce que le traitement pose problème. C'est ce que j'ai cru comprendre qu'il voulait savoir.
Oui, à ce point de vue, nous avons dit l'importance de la prévention face au coût éventuellement de la prise en charge déjà de la maladie déclarée. La maladie déclarée, c'est une maladie virale. L'organisme, d'abord, peut déjà se défendre, et c'est ça le rôle de la vaccination, en produisant des anticorps lorsqu'on injecte à un sujet un virus atténué ou un virus tué. Son organisme développe déjà une résistance. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que l'on a rencontré un cracheur de bacille de coque, on ne développe pas forcément la tuberculose, parce que l'organisme se défend quand même. La prévention par les mesures d'hygiène, etc., empêche déjà le coût que pourrait entraîner la maladie lorsqu'elle touche un plus grand nombre. Prévenir vaut toujours mieux que guérir. La sagesse, la maxime est ancienne et elle n'a pas été inventée exclusivement pour les Congolais, première chose. La deuxième, c'est vrai, les médicaments existent. Les vaccins sont là pour la prévention, en accompagnant des mesures d'hygiène globale, comme on a dit, les mesures de sexualité responsable, les mesures d'éviction, de contamination par le sang, etc., chez les personnes exposées. Toutes ces mesures sont capitales. Mais je crois qu'il voulait savoir aussi si les médicaments existent. Oui, nous avons dit que les médicaments existent, ils sont excessivement chers à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, avant d'administrer le médicament, il faut s'assurer qu'il y a la personne qui est malade en elle-même, mais il y a des porteurs du virus qui peuvent transmettre cette maladie, même si eux-mêmes ne sont pas une maladie active. C'est là où la chose est extrêmement difficile, mais elle ne l'est pas totalement parce que on s'est retrouvé par des analyses sanguines qui est activement malade, qui est porteur par les types d'antigènes que porte le malade. Mais là, nous n'allons pas nous étendre dans la dissection de ces différents types d'antigènes au risque d'ennuyer les auditeurs qui ne comprendront certainement rien à l'antigène HBS, HBC, antigène E, etc.
Exactement, oui.
Vous comprenez exactement que c'est pas le but d'une émission de vulgarisation.
Alors, il a parlé également de cette maladie sur les manifestations. C'est-à-dire, on peut être déjà contaminé par les virus, mais bon, la maladie traîne à se manifester.
Ah, oui, c'est ce que l'on appelle la période d'incubation.
Oui.
Vous attrapez, le microbe pénètre dans un organisme, vous comprenez que le sujet A et B, s'ils n'ont pas le même armada immunitaire, si leur appareil de défense immunitaire n'est pas le même, parce que l'un est affaibli par d'autres maladies comme des maladies rénales, comme le VIH-Sida qui déprime l'immunité, un sujet qui a une immunité faible peut développer plus rapidement la maladie que celui qui a une immunité plus longue. La période d'incubation, c'est vrai, c'est une période pendant laquelle vous avez un virus, mais c'est comme si ce virus s'est caché dans votre organisme sans exprimer forcément la maladie. Il faut qu'il rencontre des circonstances favorables pour que la maladie explose et s'exprime. Donc c'est ce que nous appelons en infectiologie la période d'incubation. C'est la période entre le germe contaminant et le moment où apparaissent les premiers symptômes. Malheureusement, cette période est variable, mais en général, s'agissant des hépatites, c'est pas comme la malaria où vous êtes piqué, là, une dizaine de jours après, vous développez la maladie. L'hépatite, ça peut durer des mois, ça peut même durer des années. C'est là où on a l'état de porteur, etc., qui peut être détecté par les analyses sanguines, la recherche des antigènes ou des anticorps que nous avons essayé d'énumérer tout à l'heure.
Voilà, Jean-Paul Mendji, lui est à Kinshasa et Jacques Makumbu est à Lubumbashi. Jean-Paul Mendji, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute.
Bonjour.
Je voudrais savoir, professeur, les problèmes de l'hépatite aujourd'hui constituent un problème de la santé publique. Et ça attaque presque tout le monde. Et lorsque vous lisez, vous suivez les informations, vous vous rendrez compte que 90% des populations, pour la plupart des cas, vivent avec cette maladie sans sans connaître leur état sérologique réellement. Alors voici ma première préoccupation. Lorsque vous découvrez après les analyses que vous êtes porteur des hépatites, quelle attitude faut-il adopter réellement? Quelles sont les interdictions qu'on peut avoir? Est-ce qu'on sait déjà qu'on est candidat à la mort ou qu'est-ce qu'il faudra réellement faire? Alors, la deuxième préoccupation, c'est celle de savoir quand est-ce que l'hépatite se transforme en cirrhose de foie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de cirrhose de foie qui a pour origine certainement des hépatites. Alors, quand est-ce que cette hépatite-là se transforme en cirrhose de foie? Et ensuite, quand est-ce que quel est le comportement que quelqu'un qui a cette maladie peut adopter pour survivre longtemps? Je vous remercie.
Merci Jean-Paul Mendji. Depuis Kinshasa, Lubumbashi, Jacques Makumbu. Bonjour Jacques.
Bonjour monsieur les journalistes, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio. Jacques Makumbu à Lubumbashi. J'ai trois petites préoccupations. Je voudrais juste savoir en République démocratique du Congo s'il y a des provinces qui sont beaucoup plus, qui sont les plus exposées à cette maladie. Alors, je voudrais aussi savoir les hépatites, est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est beaucoup plus concernée, qui est exposée à cette maladie-là. Et la troisième préoccupation, c'est celle de savoir, parce qu'on est en train de dire que beaucoup de gens sont en train de souffrir de ça. Parmi les mesures préventives, pourquoi est-ce que on n'a pas encore songé à mettre, par exemple, ceux qui sont atteints en quarantaine pour pouvoir empêcher la transmission? Et puis, si cette sensibilisation qu'on est en train de faire, parce que pour le moment, on est en train de le faire en français et avec beaucoup plus de termes techniques. Il y en a peut-être qui sont beaucoup plus exposés à cette maladie, mais qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent se prendre. Est-ce qu'il y a des sensibilisations aussi qui peuvent être faites dans des langues nationales pour pouvoir aider tout le monde à connaître comment est-ce qu'il faut se prendre en charge quand on est beaucoup plus exposé à cette maladie. Voilà un peu ma préoccupation.
Merci Jacques Makumbu depuis Lubumbashi. Professeur Jean-Marie Kembe, je reviens à vous. Vous avez suivi d'abord Jean-Paul qui a appelé de Kinshasa. Alors, il a dit, lorsqu'on est porteur de virus A, B ou C, est-ce qu'il y a un comportement à adopter? Il y a des interdictions?
Je l'ai même entendu dire, est-ce qu'on est condamné? Non, on n'est certainement pas condamné parce que faire la part des choses entre l'état de porteur du virus, qui peut se détecter par la mise en évidence des antigènes ou des anticorps dans le sang, et la personne qui fait la maladie réelle, l'hépatite B, virale B, C, qui a tous les symptômes que nous avons énumérés. Il ne faut pas mettre les porteurs en quarantaine. Mais lorsqu'on se sait porteur, notamment du virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C, celles-là qui peuvent évoluer vers la cirrhose et peut-être même le cancer du foie, il y a possibilité justement de bénéficier d'un traitement. Ces traitements existent aujourd'hui et sont d'une efficacité totalement éprouvée. Sauf, nous l'avons dit, ces médicaments, ces traitements sont très onéreux. Rappelez-vous également, nous l'avons évoqué, s'agissant de l'expression de maladies infectieuses, le fait d'avoir un germe, un microbe qui pénètre dans l'organisme suscite de la part de l'organisme une réaction de défense qui peut être humorale, production des anticorps ou cellulaire. Eh bien, Dieu merci, lorsque le virus pénètre dans l'organisme d'un individu immunocompétent, celui-ci a déjà des moyens naturels de se défendre contre cette invasion par le virus, etc. Donc, on ne met pas les personnes porteuses, etc., en quarantaine. Et même dans les pays que nous avons évoqués, disposant des systèmes sanitaires et de prise en charge, il est tout à fait... Il y a des métiers qui exposent davantage à ce type de... Vous avez vu la transfusion sanguine. Donc tout celui qui manipule le sang, les infirmiers, les médecins, le personnel soignant, sont parmi les personnes exposées, devraient bénéficier d'une vaccination. Mais les personnes qui doivent bénéficier de cette vaccination, on doit se rendre d'abord compte qu'ils n'ont jamais atteint ou été contaminés ou n'ont jamais rencontré ce virus parce qu'ils n'ont pas d'anticorps. On va leur injecter de manière naturelle un virus atténué qui va produire chez eux des anticorps. Mais les autres individus immunocompétents arrivent à se défendre totalement eux-mêmes. Il y a des critères d'éligibilité pour passer à la prise de ces médicaments. Vous vous rappelez au début, je vous ai parlé de l'approche de la biologie moléculaire. Elle mesure le nombre de copies virales que l'on a dans un organisme donné. Donc il y a des critères d'éligibilité pour la prise de ces médicaments, etc. Et il est totalement aberrant d'aller vacciner une personne qui a déjà elle-même au départ des anticorps. Cette personne montre qu'elle a déjà rencontré et qu'elle s'est presque naturellement vaccinée elle-même. Donc, voilà un petit peu ce que je dois dire, mais voulez-vous me rappeler si j'ai oublié l'une ou l'autre question des auditeurs, vous comprenez?
Oui.
Je les enregistre au fur et à mesure qu'ils passent.
Voilà.
Je n'ai pas tout noté, donc voilà.
Donc, vous savez, Jean-Paul doit d'abord retenir que lorsqu'on souffre de l'hépatite, on n'est pas un condamné à mort, il y a des traitements pour cela.
Il est important de le lui dire.
Ouais. Mais il avait cherché à savoir le lien entre l'hépatite et la cirrhose de foie.
Ah, oui, oui. Effectivement, tout celui qui a développé une hépatite virale B ou C ne fera pas forcément la cirrhose. Il y a des conditions d'évolution ou de passage à la chronicité. C'est vrai que ces hépatites peuvent déboucher sur la cirrhose. Je ne voudrais pas ici mentir, je n'ai pas exactement le pourcentage des... Et qui dit pourcentage dit une approximation, une évaluation à partir de cohortes, d'études qui ont été menées, etc. Mais la cirrhose n'est pas l'aboutissement obligé de toute maladie, toute hépatite virale B ou C. Il y a un pourcentage, ce n'est pas de l'ordre de 50%, certainement pas. Je pense que ça doit être même en dessous de 10% des malades qui ont fait l'hépatite et qui peuvent évoluer vers la cirrhose et même vers l'hépatocarcinome ou le cancer du foie. Donc, du foie, je voulais dire.
Et,
donc,
ouais,
ce n'est pas tout le monde qui développe forcément la cirrhose ou le cancer comme évolution de l'hépatite virale.
Bah, il y a Jacques, lui, qui a appelé de Lubumbashi, qui a cherché à savoir est-ce qu'il y a des provinces qui sont le plus touchées. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge concernée par l'hépatite?
Non, malheureusement, pas malheureusement. C'est une maladie cosmopolite, nous l'avons dit. Il n'y a pas de province plus exposée à la contamination par le sang ou par la voie sexuelle, qui sont les principales voies de contamination de ces affections. Non, il n'y a pas de province particulièrement touchée. Mais vous savez que certains comportements à risque, comme les drogués qui utilisent les injections, etc., intraveineuses et qui se les passent entre eux, c'est aussi une façon, à cause de la contamination sanguine, d'avoir d'augmenter le risque de développer éventuellement l'hépatite virale. Et il n'y a pas d'âge pour l'hépatite virale. Les nourrissons peuvent attraper une hépatite virale, ça dépend d'être exposé au virus et de ne pas réagir correctement avec son organisme, ainsi que nos seniors les plus avancés peuvent également attraper. Il n'y a pas d'âge pour l'hépatite virale.
Voilà, il n'y a pas d'âge pour l'hépatite virale. C'est avec cela qu'on va mettre un terme à ce sujet. Professeur Jean-Marie Kaimé, vous êtes interniste et doyen de la faculté de médecine à l'Université de Kinshasa. Merci d'avoir été des nôtres pour aborder ces sujets sur les hépatites. On espère vous retrouver prochainement.
C'est toujours un plaisir de répondre à l'invitation de Okapi. Merci, à la prochaine. Okapi.